Bonjour, bienvenue sur ce podcast Eutimia. Nous accueillons aujourd'hui Éric Vincent qui va nous parler de philosophie et de l'intérêt de pouvoir introduire la notion de philosophie antique dans notre réflexion de la pratique de la pleine conscience. Pourquoi et comment introduire ces notions de philosophie antique dans notre pratique de pleine conscience sera l'objet de cette interview menée par Stéphane Aufort. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très bientôt.
Bienvenue pour une nouvelle interview Eutimia. Il y a quelques jours, j'ai interviewé pour Eutimia Éric Vincent. Éric Vincent va intervenir dans un cycle que nous avons commencé, qui s'appelle le cycle arrêté, qui, en fait, nous essayons à travers ce cycle d'apporter certaines réponses ou des questionnements ou un point de vue sur la méditation, la pleine conscience et les traditions contemplatives. Éric Vincent est docteur en philosophie politique. Il a aussi enseigné à l'Université de Lyon, à l'Université de Lille. Il a participé à différentes actions et des formations en tant que consultant aussi sur le spirituel, le religieux et la laïcité. Donc il a beaucoup à partager et il a une passion pour la philosophie antique. Ce qui va nous intéresser là, et vous allez voir lorsqu'il parle, c'est vraiment passionnant, c'est de voir qu'est-ce que ces traditions contemplatives nous disent de la méditation, de la pleine conscience, et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aussi sur ce que nous vivons à l'heure actuelle. Est-ce que c'est quelque chose de poussiéreux qui date du passé ou quelque chose qui est encore d'actualité? Je vous laisse regarder cette interview, n'hésitez pas à laisser des commentaires, nous y répondrons avec joie, ou Éric même y répondra. Et vous trouverez aussi une petite bibliographie que Éric propose par rapport au sujet qu'il aborde. Bonjour Éric, très heureux de t'avoir parmi nous.
Moi aussi, très heureux.
Donc, j'ai fait une petite introduction là pour te présenter juste avant. Qui est Éric Vincent ?
Ah, c'est une grande question. Je ne sais peut-être pas qui je suis complètement en tout cas, mais j'essaie de me connaître. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, selon la maxime delphique que Socrate avait fait sienne. Donc j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Donc ça dit, je pense, beaucoup de choses sur ce que j'essaie de suivre en termes de fil existentiel et aussi d'activité, de connaissances. Et si on essaye d'être un peu plus spécifique, disons que je travaille depuis maintenant de longues années, depuis peut-être plus de 30 ans, sur le fait religieux, la spiritualité, la laïcité et les sujets apparentés. Je le dis souvent comme ça parce qu'en fait, c'est tout un paquet de questions en fait, qui sont liées les unes aux autres. J'ai toujours eu de l'intérêt pour le religieux, les traditions religieuses, mais pas abordé n'importe comment, d'abord abordé d'un point de vue spirituel, ce qui ne va pas toujours de soi, parce que souvent en France, et en particulier à l'université, parler de religieux n'est pas facile, et en particulier parler de spiritualité quand on aborde le religieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Si je peux me permettre, c'est quelque chose sur lequel tu vas revenir lors de la conférence du 6 avril, je pense, la différence entre religieux et spiritualité.
Oui, tout à fait. À la fois la différence qu'on a plus l'habitude de souligner, mais aussi le lien. C'est-à-dire que, en la matière, souvent je dis, en reprenant une phrase de la théologie chrétienne, il faut distinguer sans séparer et unir sans confondre. Donc, y a vraiment des liens très profonds entre le spirituel et le religieux, pour le dire vite. Les religions me semblent être des formes institutionnelles sociopolitiques du religieux, du spirituel, hein, des formes institutionnelles du spirituel. Et ce qui déjà souligne le problème, c'est-à-dire que à la fois le spirituel a du mal à se transmettre sans ses institutions, que sont les religions, surtout sur la longue durée, et en même temps, le sociopolitique et le spirituel, ça fait assez mauvais ménage. Hein. Donc là, il y a des ambivalences, il y a des tensions, et c'est notamment cela que j'essaie d'explorer. Et puis aussi, le travail sur la laïcité, qui est au fond la façon dont les États démocratiques modernes se situent par rapport à toutes ces questions, toutes ces problématiques. et en particulier en France, bien sûr, puisque ce terme est surtout français quand même. Il n'est pas uniquement français, mais il est d'abord français, le terme de laïcité. Et puis, alors je m'intéresse aussi à beaucoup d'applications en rapport avec tout ça. Hein. Donc, ma démarche, elle est fondamentalement académique, universitaire, scientifique. Mais j'ai été aussi longtemps journaliste parce que j'ai toujours songé qu'il était important de, à la fois de faire un travail de recherche fondamentale, mais aussi, bien sûr, de le diffuser autant que possible, de le vulgariser. Avec le plus de, comment dire, d'honnêteté et en même temps de précision, hein. Donc c'est un exercice qui est là aussi difficile, surtout quand on a un abord des choses qui est un peu non conventionnel, hein. Ce que je disais là sur l'intérêt pour le spirituel, c'est pas si répandu que ça finalement. Et donc voilà, ce que j'essaye de faire en le déclinant à travers différents métiers. Enseignant surtout, formateur dans le monde professionnel aussi, journaliste et puis chercheur, essayiste, on va dire, puisque j'ai écrit ou coécrit aussi un certain nombre de textes, notamment un sur la pensée et la spiritualité de Jean Jaurès et un autre sur le rapport qui existe entre Nelson Mandela et le Mahatma Gandhi. Hein, qui n'est pas très connu en France, mais qui pourtant semble très important pour comprendre la figure de Nelson Mandela. Donc voilà, voilà quelques éléments de réponse à cette question que tu m'as posée.
Et quelque chose sur la laïcité que tu as dit, principalement en France, voyageant beaucoup à travers l'Europe, donc en général, c'est tous des démocraties donc laïques, mais on voit à quel point ce n'est pas si clair que ça dans beaucoup de pays en Europe, d'une manière ou d'une autre. Et la France a vraiment une spécificité par rapport à ça.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Disons que déjà, je dirais que chaque pays a une spécificité en la matière et que justement, c'est un très bon fil pour découvrir la spécificité d'un pays, d'une culture, son identité, hein, au sens le plus simple du terme en fait, voilà, sa singularité, que de s'intéresser à sa laïcité, avec des guillemets, ou exactement à son rapport État, religion, société, mœurs. Hein, tout ce paquet de choses, là encore, État, société, religion, mœurs, voir comment les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Suisses, les Polonais et tous les autres, là je parlais que de l'Europe évidemment, mais s'en saisissent et combien ça témoigne de l'histoire de ces différents pays. En fait, les équilibres juridiques ou les déséquilibres parfois, et aussi les polémiques, les affaires médiatiques, etc., etc., dans ces différents contextes, témoignent vraiment d'une histoire, en fait, d'un parcours historique. Et pour ce qui est de la France, on est dans la même configuration, c'est-à-dire que notre laïcité française, eh bien, elle témoigne du rapport État, religion, société, mœurs depuis le Moyen Âge, en fait, hein, et comment ces choses ont évolué par étapes successives. Et je pense que avoir cette profondeur d'analyse historique est extrêmement important et éclairant pour comprendre les enjeux actuels et ceux de demain.
Tu vas intervenir avec Timia dans un cycle qu'on a appelé le cycle arrêté. Donc ça, c'est un terme qu'on a trouvé grâce à toi, merci, qui nous convient totalement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce terme arrêté?
Alors en fait, arrêter, ben justement, c'est un terme qui n'est pas facile à rendre en français parce qu'il est très grec en fait. Hein. Il renvoie vraiment à une singularité de la culture grecque antique, un peu comme le mot laïcité en français contemporain, qui n'a pas vraiment d'équivalent dans d'autres langues. Arrêter, c'est à la fois la vertu, hein, c'est souvent comme ça qu'on le rend, ce terme d'arrêter, mais aussi l'excellence, voir la perfection dans un domaine particulier, dans un exercice. Hein, c'est par exemple la vertu, l'excellence de l'œil, c'est de voir parfaitement dans toutes les circonstances, quel que soit le degré de luminosité. Hein, l'arrêté de l'athlète, sa vertu, c'est son excellence, c'est sa capacité à performer aux Jeux Olympiques antiques en l'occurrence. Donc voilà, cette notion en quelque sorte qui constitue l'idéal de l'homme grec, hein, à la fois de beauté, d'adéquation à un besoin, hein, ou à une fonction, d'utilité, aussi la notion de ce qui est agréable, de ce qui est confortable. Enfin, y a vraiment toute une gamme de choses positives qui sont liées à cette fine pointe en fait de l'excellence. Hein. Donc le mot qu'on emploie souvent pour dire ça, c'est l'excellence, l'arrêté. Et
D'accord.
une dimension importante à rajouter, il y a aussi un rapport entre le personnel et le collectif, parce que ça aussi c'est très propre aux cultures grecques antiques, ce qu'on appelle parfois la liberté des anciens, hein. C'est-à-dire l'idée que l'homme ne peut pas se réaliser pleinement en dehors de son rôle social et politique, hein, de sa place dans la cité, et que donc que l'excellence personnelle ne va pas sans l'excellence du citoyen, en fait. Et derrière arrêter, il y a aussi cette notion, voilà, d'interdépendance entre l'individuel et le collectif, et qui me semble en fait très comment dire, vraiment d'actualité aujourd'hui.
Oui, totalement, totalement. Par rapport à ce cycle justement arrêté, toi, tu vas donc l'ouvrir. On t'a demandé de l'ouvrir et tu as accepté gracieusement. C'était vraiment un vrai plaisir. Avec les philosophies antiques, qu'est-ce qui t'a amené ou qu'est-ce qui t'intéresse exactement dans cette approche des philosophes?
Alors, ça renvoie vraiment à un intérêt depuis mon enfance, enfin depuis toujours. Je me souviens même que quand j'étais au centre aéré en Lozère, donc je ne sais pas, j'avais 6-7 ans, j'avais déjà prononcé le nom de Platon et que les gens autour de moi m'avaient dit, enfin, c'est étonnant, un petit enfant qui s'intéresse à ça. Évidemment, je ne savais quasiment rien à l'époque. Mais pour dire vraiment que c'est quelque chose qui résonne en moi vraiment de très nombreuses années. Et alors, je pourrais en parler très longtemps, je pense qu'il y a une forme à la fois de familiarité et d'énigme. Hein. Si je devais résumer, je pense ce qui me percute à propos des philosophies antiques, c'est leur caractère à la fois tellement proche de nous. Non, déjà par le langage, hein, qu'avoir tellement de termes du langage en français, de la langue française, nous viennent du grec. Hein, dès qu'on s'intéresse en fait aux sciences, à la médecine par excellence, mais aussi à la philosophie et à beaucoup d'autres domaines, on rencontre la langue grecque, qui est donc présente en nous et liée à la question de la science, de l'intelligence, de l'étude. Hein, donc il y a cette présence-là. Et en même temps, cette étrangeté, ce caractère exotique, parce que dès qu'on commence à s'intéresser au monde grec, un peu comme on l'a fait là avec le mot arrêté, on se trouve à la fois en terrain connu et en même temps décalé, dans une forme d'étonnement, une grande notion philosophique, l'étonnement. Et donc, c'est la première chose qui m'attire dans cette tradition grecque. Je pense aussi que... un effet du paradoxe que je viens de souligner, en fait, on croit la connaître, mais souvent on la connaît mal, ou on la connaît à travers des poncifs, à travers des lieux communs, et souvent ce qu'on a retenu à moitié de notre parcours scolaire, en particulier pour ce qui est de la philosophie. Et donc, j'ai toujours été percuté par les textes eux-mêmes, hein, quand j'ai eu la possibilité d'aller lire les textes de Platon, les textes d'Épicure, d'Aristote, et aussi des gens qui les analysent aujourd'hui, et des anthropologues, hein, comme les professeurs Vernant, Détienne, Pierre Hadot, etc., etc., de voir à quel point, en fait, ces textes gardaient un intérêt pour nous et en même temps étaient souvent voilà, recouverts par une sorte de poussière soit d'incompréhension ou en tout cas de simplification. Hein. Je te donne un exemple juste, là, par exemple, la notion de religion en Grèce me semble souvent mal comprise. En particulier du fait d'un regard un peu rétrospectif, c'est-à-dire qu'on plaque sur le monde grec des catégories ou des problèmes qui sont les nôtres. Hein, donc ça, c'est souvent le cas pour beaucoup d'efforts de connaissance, hein, où on va essayer d'envisager l'inconnu à partir du connu, et ça pose problème souvent, bien sûr. Et en l'occurrence, par exemple, on oppose souvent philosophie et religion. Hein. C'est devenu un poncif dans la culture française, notamment scolaire, hein, au fond, de dire voilà, la philosophie, c'est de l'ordre de la rationalité, et ça s'oppose aux religieux. Et d'ailleurs, par exemple, Socrate a été condamné, donc l'un des plus grands philosophes, là, considéré souvent comme le fondateur de la philosophie, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Socrate a été condamné notamment pour impiété, hein, comme si dès l'origine, en fait, il y avait un conflit entre religion et philosophie, c'est-à-dire rationalité. Et en fait, plus moi j'étudie ces textes et ces cultures, plus je trouve que ce type de représentation dichotomique, simpliste et caricaturale, et que par exemple, la philosophie est un phénomène non seulement spirituel, hein, comme ça a été souligné par Pierre Hadot, mais qui a des rapports profonds avec la religion. Hein. Et là, on retrouve un peu le début de notre entretien sur le fait que voilà, spiritualité et religion sont en tension, mais sont aussi en complémentarité et sont liées. Et c'est très net dans le cas de la philosophie. Hein. Justement, j'ai commencé aussi cet entretien avec toi par rappeler la maxime de Delphes, hein, que Socrate avait fait sienne. Quel meilleur exemple, en fait, hein. De ce lien que Socrate avait avec Apollon, en l'occurrence, avec la divinité centrale du sanctuaire hellénique de Delphes. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs par page quand on lit Platon, en fait. Hein, et ce n'est pas vrai seulement chez Platon, c'est vrai chez la plupart des philosophes, alors avec des nuances, bien sûr, hein, c'est moins net chez Aristote, encore que. Je me suis notamment beaucoup intéressé à la tradition sceptique. Là aussi, le mot est un peu problématique aujourd'hui parce que le mot sceptique a changé de sens au cours des siècles. Mais en l'occurrence, donc ce courant qui a été fondé par Pyrrhon d'Élis, hein, qui est un philosophe un peu plus jeune que Platon, hein, un contemporain, mais du 4e siècle. De notre ère et du 3e siècle, hein, à cheval un peu sur ces, l'aventure d'Alexandre le Grand en Inde, enfin jusqu'en Inde, hein, jusqu'en Asie. Chez les Pyrrhoniens, hein, on trouve aussi, par exemple, me semble-t-il, hein, une dimension spirituelle qui a été rarement perçue. Et qui va pas sans évoquer aussi la question de la rencontre de l'Orient, hein, et aussi justement des traditions contemplatives. C'est-à-dire que on a malheureusement très peu de textes, hein, sur Pyrrhon et sur les philosophes sceptiques, surtout à cette époque très très ancienne. Mais on a des indices. Le philosophe grec Pyrrhon d'Élis avait été dans sa jeunesse soldat dans l'armée d'Alexandre, et que quand on racontait sa vie des siècles plus tard, on mettait en évidence ce qu'il aurait pu retenir de ce voyage en Orient, et que donc il avait été marqué par ces personnes mystérieuses qu'on appelle les gymnosophistes, hein, donc c'est-à-dire les sophistes nus, hein, les sages nus, qui étaient présents donc dans l'Orient dans ces siècles-là, hein, donc ce mot grec un peu étrange, inhabituel. Et on ne sait pas trop qui sont les gymnosophistes aujourd'hui. Hein. Il y a un ensemble de recherches à leur sujet. S'agissait-il d'hindouistes, de jaïnes, ou de bouddhistes, ou d'autres encore? En fait, on ne sait pas, c'est très difficile à déterminer. Mais toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a un lien entre philosophie et spiritualité à nouveau, et puis aussi entre Orient et Occident. Et ça fait partie vraiment des sujets qui me passionnent, hein, notamment à travers un phénomène extraordinaire et d'une complexité folle qu'on appelle parfois le gréco-bouddhisme, hein, c'est-à-dire justement toutes les formes syncrétiques qui sont nées de la conquête d'Alexandre de l'Empire perse et puis des régions encore plus orientales jusqu'aux confins de l'Inde et de l'implantation de Grecs dans ces régions pendant plusieurs siècles, hein. Et de l'impact que ça a pu avoir sur les cultures locales, les traditions locales, et aussi sur la naissance du Mahayana, hein, donc dans des grands courants du bouddhisme. Et puis aussi l'effet retour, c'est-à-dire que souvent là aussi les Occidentaux ont bien voulu s'intéresser à ce que les Grecs avaient pu laisser en Asie, mais on considère moins souvent ce que les Orientaux ont pu apporter aux Grecs. Et le fait, par exemple, qu'il est possible qu'il y ait eu des bouddhistes dans la plus grande ville du monde hellénistique, hein, donc juste avant l'Empire romain, à savoir Alexandrie en Égypte, hein, qui était une ville internationale, qui est un peu l'équivalent de New York aujourd'hui, et où on est quasiment certain aujourd'hui qu'il y avait des bouddhistes. Hein. Donc voilà, exemple de ces choses qui me fascinent. Et sur un plan peut-être moins anecdotique encore que ça, c'est pas seulement de l'érudition historique, hein, il y a vraiment des enjeux intellectuels énormes et identitaires aussi, hein, sur qu'est-ce que c'est l'Orient, qu'est-ce que c'est l'Occident, qu'est-ce que c'est la philosophie, qu'est-ce que c'est la spiritualité. Bon. Peut-on penser ces choses-là les unes sans les autres, hein? En fait, je pense que non. Donc, c'est vraiment une découverte non seulement de la complexité, mais aussi de l'interdépendance, hein, vraiment de l'interdépendance et de l'insaisissabilité de toutes ces réalités qu'on essaye d'attraper par la raison quand on pratique la science ou la philosophie et qui en fait se dérobe toujours sous notre pensée. Hein.
Ça, c'est très intéressant, ça, parce que il y a ce texte, pour revenir un peu à ce que tu disais, là, cette connexion entre le bouddhisme et puis peut-être les descendants des armées d'Alexandre. Il y a ce texte où il y a justement un échange entre un moine bouddhiste et un roi d'une Bactria, qui doit se situer entre le Pakistan et l'Afghanistan actuel, et qui est un descendant direct des généraux d'Alexandre.
Voilà, le Milandapana, hein, donc,
Oui, voilà.
qui est dans le canon pali, c'est-à-dire donc dans les textes canoniques du bouddhisme, c'est un des textes bouddhiques les plus connus, qui a un dialogue de type socratique et qui met en présence un roi indo-grec, hein, donc Ménandre, Milinda en pali, Nagasena, donc un moine bouddhiste. Et là, donc, on a un exemple type à la fois de cette fusion, en quelque sorte, des influences orientales et occidentales, et de leur influence, puisque là, comme je dis, on a affaire à un texte canonique, donc c'est un des textes les plus importants et les plus anciens, hein, les plus, je dirais, un des premiers à avoir été formalisé. Et donc, voilà, c'est un exemple idéal de ce que j'essaye de dire. Hein. Et puis, une autre façon de prendre les choses aussi, ce serait au fond de. Voir comment la philosophie aujourd'hui peut être un chemin spirituel, je crois qu'on peut oser prononcer ce mot, pour des personnes qui se sentent éloignées du religieux ou des voies traditionnelles, voilà, des trois monothéismes et même du bouddhisme, de l'hindouisme, du taoïsme, hein, qui ne se sentent pas prêtes à passer par ce type d'engagement, mais qui pour autant ont une aspiration, une soif, envie de s'orienter dans leur vie de façon plus cohérente, besoin de trouver du sens, bien sûr, mais aussi un épanouissement, hein, et pourquoi pas une excellence, hein, une arrêtée, hein. Donc, je crois que la philosophie peut aujourd'hui jouer ce rôle, à condition justement qu'on la dépoussière en quelque sorte. Et qu'on la mobilise en lien avec un certain nombre de choses qu'on a déjà dites, hein. Non plus que par opposition avec le religieux, les spiritualités, etc., ou de façon étroitement académique, hein, comme un exercice purement conceptuel ou d'histoire des idées, hein, d'histoire des concepts. C'est souvent ce qu'on fait quand même dans le monde académique. Alors que l'idée, c'est vraiment de lui redonner sa fraîcheur et sa fonction première, c'est-à-dire d'être quête de la sagesse, c'est-à-dire quête du bonheur. Hein. Alors, on sait bien, la quête du bonheur, c'est devenu aussi aujourd'hui une tarte à la crème. Voilà, ça a été très. Comment dire?
Justement, ça peut être intéressant, ça va être intéressant de pouvoir redéfinir ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que la perfection, et ainsi de suite.
Mais tout à fait, je pense que c'est l'un des intérêts, l'un des enjeux de notre démarche. Et aussi de sortir d'une dichotomie qui me semble omniprésente dans notre culture et assez dommageable, c'est l'opposition entre la pensée, les concepts, justement, une pensée rigoureuse, la logique, la maîtrise des nuances linguistiques, etc., d'une part, et d'autre part, le ressenti, le vécu, l'expérience, le corps. Je trouve qu'on est encore très habité par un dualisme dans ce domaine. Et comme voilà, ce que je disais tout à l'heure, une sorte de la caricature de ce clivage, c'est voilà, les colloques universitaires où on est totalement dans une érudition extrême, en fait, et où la question existentielle et a fortiori spirituelle n'est vraiment pas de mise. Et puis à l'opposé, un monde néo-spirituel qui est très présent notamment sur les réseaux sociaux, sur les grandes plateformes de vidéos et autres, où c'est l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune rigueur intellectuelle, on raconte n'importe quoi, on est dans un anti-intellectualisme tout à fait déplorable. Et j'ai le sentiment que ces deux caricatures sont dommageables, alors que la philosophie, comme d'ailleurs les traditions contemplatives, sont faites pour le bonheur des humains. C'est leur fonction, elles servent à ça, dans l'idée que ce bonheur ne peut pas être trouvé en dehors de la vérité. Hein. Alors la vérité, les vérités, des vérités. Hein. Voilà, alors, on est déjà en plein dans le sujet la réflexion philosophique. Hein.
Il y a quelque chose que tu viens de dire qui est, j'allais dire quelque part, une forme d'espoir. Je vais pas utiliser ce mot-là, en fait. Lorsqu'on entend parler des neuroscientifiques, qui étudient vraiment d'une manière, on va dire, donc scientifique, logique, les effets, par exemple, de la méditation sur la conscience, qui se posent la question qu'est-ce que la conscience, et ainsi de suite, la différence entre les fonctionnements, on va dire, physiologiques du cerveau, l'essence et qu'est-ce que la conscience, comment la conscience en fait n'existe peut-être qu'à travers l'essence plus la fonction physiologique du cerveau et ainsi de suite. Là, on voit déjà émerger donc ce qui est dans le monde anglo-saxon connu comme les neurosciences contemplatives. On voit émerger une sorte de rapprochement entre la logique, la connaissance scientifique et le spirituel. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on souhaiterait explorer donc chez Timia dans le futur. Mais pour revenir un peu sur ton intervention, parce que ce cycle arrêté, l'idée derrière, c'est vraiment d'amener l'idée de la méditation, de la pleine conscience et des traditions contemplatives. Donc de retrouver un peu tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire comment les traditions qui ont existé dans le passé et qui sont encore vivantes pour certaines, comment elles nous parlent de la pleine conscience, comment elles nous parlent de la méditation et en quoi, au jour d'aujourd'hui, elles peuvent nous apporter quelque chose sans obligatoirement embrasser une religion ou une autre, mais peut-être trouver une voie spirituelle. Parce que très souvent, on a les gens qui viennent vers nous en disant, oui, c'est bien, la pleine conscience, c'est une spiritualité laïque. Ce qui, par la définition du mot, est une contradiction. Mais
Mais bon,
bon, voilà,
y
c'est.
a un problème clairement dans cette expression, ça c'est, on est bien d'accord. Et déjà autour de la notion de laïcité, hein, cet adjectif laïque qui est donc sur pratiquement toutes les bouches aujourd'hui, mais qui est très souvent mal maîtrisé, mal compris. Alors bon, chacun dit ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, hein, mais en même temps, il faut quand même revenir au sens déjà juridique des termes. La laïcité, c'est d'abord un principe juridico-politique, on peut dire, mais avant tout même juridique, de droit constitutionnel, et qui désigne le caractère neutre en matière philosophique, métaphysique, spirituelle et religieuse, hein, tout ça à la fois, le caractère neutre des institutions publiques. Hein. C'est ça que ça veut dire, la laïcité. Donc, quand on parle de méditation laïque ou de spiritualité laïque, je pense que le terme est inapproprié et que ce que veulent dire les personnes qui emploient cette expression, c'est une méditation non religieuse ou non confessionnelle. Et que c'est beaucoup plus clair de le dire comme ça, parce que ça évite des grands
Oui,
malentendus,
exactement.
tant à
Ouais.
l'égard des religions, des traditions, que de la laïcité elle-même. Hein, bon, déjà, voilà, ça c'est important Bon, là, je vais très très vite parce que c'est des questions qui mériteraient des approfondissements. Mais il y a déjà ce problème, hein, en effet. Et sinon, donc la philosophie grecque, en tout cas, c'est vrai pour toute son histoire, mais c'est particulièrement vrai à propos des textes grecs. Et puis autant commencer par le début, hein, surtout que c'est passionnant et que les textes sont magnifiques. Du côté de la philosophie grecque, il y a vraiment d'abord ce lien avec le spirituel qui est explicite, hein. Souvent, on ne veut pas le voir, on le méconnaît, on ne le cite pas, mais il suffit de lire les textes, encore une fois. Donc ça fait sens évidemment pour un programme de pleine conscience ou inspiré par, nourri par la pleine conscience ou qui s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience certaine dans ce domaine. Et puis on pourrait dire l'un des points clés de cette rencontre entre philosophie et pleine conscience, c'est la tension. C'est-à-dire que au fond, les philosophes, malgré leur diversité, souvent d'ailleurs plus superficielle que profonde, hein, parce que quand on creuse en profondeur, au fond, les sages antiques se ressemblent beaucoup, hein, par les types de modes de vie qu'ils conseillent. Hein, le discours philosophique diffère souvent, mais le mode de vie philosophique est souvent proche, hein. Et donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Et que justement, le discours et le mode de vie doivent aller ensemble. Donc c'est une façon de dire, au fond, qu'il y a plusieurs chemins linguistique ou discursif pour arriver à un mode de vie sage et heureux, hein, puisque c'est ça le but, et que ces différents chemins passent par une forme de culture de l'attention, hein. D'abord dans le justement dans la clarté, la cohérence du discours, du dialogue, hein, la capacité à écouter l'autre, à écouter les mots, hein, ses propres mots, donc écouter sa propre pensée, si j'ose dire, être conscient de sa propre pensée et de celle d'autrui à travers le langage, et chercher la vérité et le bonheur ensemble. Donc il y a toute cette dimension dialogique qui est absolument fondamentale et qui en elle-même est tellement porteuse de sens, hein. D'abord dans l'idée que, bah, que nous sommes interdépendants, hein. C'est-à-dire que nos intelligences sont dialogiques, hein. On n'est pas intelligent tout seul. C'est impossible en fait. Hein, et là, on retrouve cette vocation, quand je parlais tout à l'heure de l'excellence personnelle et collective, hein, c'est que c'est simplement par illusion que nous nous croyons être des êtres séparés, parce que pour beaucoup de choses fondamentales en nous, à commencer par le langage, nous sommes liés les uns aux autres. Et donc, nous sommes intelligents ensemble ou pas du tout, en fait, hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que Socrate, donc ce quasi-fondateur de la philosophie, s'est vu confié par le dieu, comme il dit, hein, avec les termes de l'époque, donc semble-t-il par Apollon, la mission d'aller engager des dialogues avec tout un chacun, hein, au nom de l'arrêté, en fait, au nom
Ah
justement de l'excellence, pour faire émerger cette excellence dans chacun et en lui-même, hein, dans l'idée aussi que cette excellence, elle n'est pas acquise, elle est toujours en jeu, elle est toujours dans le flux, hein, et que donc Socrate se fait philosophe en discutant avec ses interlocuteurs, hein. Il ne possède pas un savoir tout fait, hein. C'est bien l'une de ses idées fondamentales, hein. Il ne cesse de dire qu'il ne possède aucun savoir. La seule chose qu'il sait faire, c'est justement cultiver l'intelligence dans le dialogue avec autrui pour faire émerger cette vertu, cette excellence, alors on peut l'appeler spiritualité aussi, on peut l'appeler de beaucoup de termes, mais ça a sans doute beaucoup à voir avec une vie véritablement goûteuse, une vie qui rend heureux, une vie épanouie. Et donc ce goût de la vie, ça passe par l'attention, ça passe par la capacité à écouter, à interroger sans avoir peur de la pensée discursive, hein. Donc je pense que souvent dans les milieux où on pratique la méditation, on est donc un peu habité par cette dichotomie entre silence et parole ou rejet de l'intellectualité au nom d'une forme de contemplation silencieuse, hein. Donc il y a une peur de la discursivité. Et je pense que l'un des intérêts aussi d'une démarche entre philosophie et pleine conscience, c'est de se réconcilier avec la discursivité et de l'apercevoir justement comme un moyen de pleine conscience, hein, il y a là comme deux jambes ou deux ailes, hein, le silence et la parole ne s'excluent pas mutuellement, mais sont en fait liés l'un à l'autre, hein. Aller vers une parole qui est habitée par un silence de l'attention juste, et être capable de cultiver un silence qui parle, un silence qui est parlant, hein, qui est signifiant, qui est lourd de vérité en quelque sorte, vitale, eh bien voilà, ça c'est je pense l'enjeu de ce type de démarche.
C'est vraiment ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est d'entamer justement en espérant que ça va apporter une forme de discussion, d'échange, mais aussi de réflexion personnelle pour chaque personne qui se joindra au cycle, parce qu'on va proposer, donc toi, avec les philosophies antiques, il va y avoir sur le bouddhisme, on a aussi des contacts avec les chrétiens, des hindouistes, des soufis, puis des phénoménologistes aussi, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais d'amener toute cette discussion, toute cette pensée, toute cette réflexion sur déjà qu'est-ce que c'est que la pleine conscience, en quoi la pleine conscience, avec ses antécédents, avec ses racines, comme dans la philosophie grecque et d'autres traditions, comment aujourd'hui elle peut répondre déjà à un niveau personnel à mes problématiques et comme tu l'as dit, comment nous sommes interdépendants à ce qui se passe dans la société autour de nous. Voilà. Donc merci beaucoup Eric parce que je pense que ça va être extrêmement intéressant. J'ai hâte que l'on commence
Et
à
moi aussi,
t'écouter parler comme ça, je trouve ça fascinant.
c'est un plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Je suis très heureux aussi de commencer cette aventure ensemble.
Ben écoute, encore merci d'avoir participé à cette interview. Eric va nous passer quelques textes, des titres comme ça, d'ouvrages, mais aussi des titres d'ouvrages, enfin de textes qu'il a écrits, que nous allons mettre sous la vidéo. Vous pourrez les retrouver, une sorte de bibliographie. Encore merci, Eric.
Merci, à
Au
bientôt.
revoir.
Au revoir.